heures sur Fréquence Mistral. Merci d'être avec nous, c'est Camille au micro. Et vous entendez le quatuor à cordes numéro 14 de Beethoven que vous entendrez désormais une fois par mois à l'occasion de cette émission, car c'est une première aujourd'hui. C'est la première de l'émission d'A Capo, autrement dit depuis le début, et qui se propose d'être une émission mensuelle d'environ 50 minutes et durant laquelle seront abordées les musiques dites classiques ainsi que les musiques traditionnelles. Il s'agit de vous faire redécouvrir ou découvrir des œuvres, mais aussi des pratiques, des codes en termes d'écriture, de structuration, des notions d'histoire de la musique, en somme des repères musicologiques et musicaux. Et loin de ne s'adresser qu'au cercle fermé des musicologues, d'A Capo vise au contraire à parler au plus grand nombre en partant du début dans une démarche presque pédagogique sans pour autant prendre l'auditeur pour un enfant. Et puisque Fréquence Mistral est une radio de proximité, cette émission se devait de créer un lien entre son contenu et le territoire que Fréquence Mistral concerne. Aussi, l'idée est de proposer une émission en lien avec l'activité musicale des Alpes du Sud. Et aujourd'hui, cette émission sera en lien avec le concert qui aura lieu samedi 5 avril prochain au Théâtre Jean Le Bleu, dans le contexte du 5e week-end musical de Manos, qui vient un concert du Quatuor Debussy, qui propose un concert exceptionnel ce samedi, un concert consacré à la fugue, avec un répertoire qui traverse les époques, l'art de la fugue de Bach, de fugue d'Astor Piazzolla, etc. C'est l'occasion pour nous de parler de cette forme musicale. C'est un thème très riche compte tenu de la complexité de cette forme d'écriture et de la manière dont les compositeurs se la sont appropriée à travers les siècles. Et les quatuors Debussy, c'est un quatuor qui s'est formé en 90 à Lyon, et c'est un quatuor vraiment de qualité que je vous invite à écouter et surtout d'aller voir ce samedi au Théâtre Jean Le Bleu. Il touche un peu à tout, il aborde Forêt comme Beethoven, comme Bach, et des compositeurs beaucoup plus modernes. La fugue, Kesako, eh bien, c'est une forme d'écriture musicale que l'on appelle contrapuntique, très grossièrement. Le contrepoint, c'est l'opposé des formes verticales, dites harmoniques, où tout se joue au niveau des accords. Au contraire, une forme contrapuntique ne jouera que sur l'horizontalité, donc le contrepoint, c'est-à-dire l'art de faire évoluer une ligne mélodique à plusieurs voix, par exemple en faisant des canons, etc. En gros, c'est en distribuant aux différentes voix cette ligne mélodique pour la faire évoluer. La fugue, elle peut être créée pour une formation entre 3 et 5 voix, mais la plus courante est à 4 voix, et c'est cette fugue-là que nous prendrons en illustration pour vous faire découvrir la fugue. C'est une forme des plus complexes en musique qui suit un schéma très rigoureux, mais qui n'est pas pour autant compliqué à comprendre. Il faut prendre l'exemple comme métaphore une conversation. Dans une conversation, il y a un sujet, et chaque personne va aborder le sujet, mais avec sa propre voix. Et c'est exactement ce qui se passe en musique dans le thème de la fugue. Lors de l'exposition, c'est-à-dire le début de la fugue, il y a un thème qui est appelé le sujet. C'est le nom que l'on donne à ce thème fondamental qui engendre la fugue. Ce sujet, il est d'abord entrepris par une voix ou un instrument, puis successivement, les autres voix vont à leur tour entreprendre ce sujet, c'est-à-dire l'imiter. On appelle ça imiter en musique. Elles vont l'imiter les unes après les autres. Et dans une fugue à quatre voix, la première imitation du sujet s'appelle la réponse. Pendant cette réponse, la première voix entame le contre-sujet, la troisième voix arrive alors et reprend le sujet dans sa version première, pendant que la deuxième voix entame la contre-réponse. La quatrième voix arrive enfin et énonce la réponse dès que la troisième énonce le contre-sujet. Je vous propose, pour illustrer ces propos, d'écouter un extrait de l'Art de la fugue de Bach. Il s'agit du premier contrepoint. On se retrouve après pour plus de détails.
Thank you.
Vous venez d'écouter l'art de la fugue, le contrepoint numéro 1 de Bach, et je précise que le quatuor Debussy jouera bien sûr des extraits de l'art de la fugue lors du concert de samedi prochain, le samedi 5 avril. Alors vous avez pu entendre ces quatre voix successives, mais il faut savoir que ces quatre voix ne sont pas placées au hasard, et c'est là que se trouve la plus rigoureuse des contraintes de la fugue. La première voix, lors de la première exposition du sujet, annonce la tonalité du morceau, et la réponse, quant à elle, imite le sujet à la dominante de cette tonalité, c'est-à-dire à la quinte, 5 tons plus haut que la fondamentale. Et en musique, la fondamentale, c'est la note de base sur laquelle se construit une tonalité ou un accord. Par exemple, si nous sommes en Do majeur, la fondamentale est le Do et la dominante ou la quinte est le Sol. Récapitulons, la première voix expose le sujet à la fondamentale, la deuxième expose la réponse à la dominante, la troisième réexpose le sujet à la fondamentale et la quatrième voix donne la réponse à la dominante. On va réécouter un extrait de l'art de la fugue de Bach, cette fois c'est le contrepoint numéro 2. Mais quelques mots avant sur l'art de la fugue, c'est une œuvre que le compositeur allemand Jean-Sébastien Bach a commencé aux alentours de 1740 et qu'il a poursuivi jusqu'à sa mort en 1750, donc l'œuvre est restée inachevée. La version de Bach contient 12 fugues et 2 canons, puis son fils, Karl Emmanuel, a après sa mort entrepris de terminer, après la mort de son père, pardon, a entrepris de terminer la gravure de cet ouvrage et il y rajoute 2 fugues et 2 canons, mais l'on n'est pas sûr que Jean-Sébastien Bach envisageait lui-même de placer ses 4 pièces dans cette œuvre. L'art de la fugue marque l'apogée du style contrapuntique, du style de la fugue. La complexité de la fugue est poussée à l'extrême. C'est une des plus complexes des prouesses musicales occidentales. On écoute le deuxième contrepoint de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Écoutez l'interprétation du quatuor Juillard, qui est un quatuor exceptionnel qui nous vient tout droit des États-Unis. Tout de suite, nous allons aborder l'histoire de la fugue, parce que la fugue ne vient pas de nulle part. Le terme fuga a été utilisé pour la première fois dès le début du XIVe siècle par Johannes de Muris, qui est un mathématicien et musicologue du XIVe siècle, qui a écrit beaucoup sur l'art du contrepoint. Il désignait à l'époque des phrases strictement imitées. Et le terme se retrouve ensuite chez Wolkenstein, Rammstein, qui est un compositeur germanique mort il y a très longtemps, en 1445, pour désigner le canon. Mais ce terme ne désigne pas encore la fugue dont nous parlons. Celle-ci remonte aux œuvres instrumentales du XVIe siècle qui correspondent au motet. Le motet, c'est une composition apparue au XIIIe siècle avec l'école de Notre-Dame. Composition à plusieurs voix, une écriture contrapuntique. Et elle correspond plus particulièrement au ricercare, qui veut dire rechercher. C'est une pièce instrumentale, une forme typique de la Renaissance. Le ricercare était d'abord vocal, puis bâti sur des suites d'expositions en imitation. Puis lorsque le ricercare fut privé de paroles, il fut obligé de se chercher un nouveau type d'unité sur une base proprement musicale. Et cette évolution, commencée dans la seconde moitié du XVIe siècle, a abouti à l'élaboration de la fugue monothématique, c'est-à-dire la fugue avec un seul sujet. Bach a porté la complexité de la fugue à son paroxysme et après lui, elle a été cultivée avec des buts et des contenus divers par les classiques viennois, en particulier Beethoven, puis les romantiques et bien sûr les modernes, César Franck, Igor Stravinsky et puis Astor Piazzolla que nous écouterons bientôt. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait du Requiem de Mozart, la messe de Requiem en ré mineur du compositeur autrichien, composée en 1791, est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart, une œuvre inachevée également, comme l'art de la fugue. Elle a été écrite aux deux tiers par Mozart et l'autre tiers n'est pas de lui. Il est de Joseph Ebler et de Franz Xavier Süssmayer. Ce sont eux qui se sont chargés de continuer cette œuvre inachevée. Et le Requiem regorge de fugues. Il y en a une double dans le Kyrie, il y en a deux dans l'Offertoire, une dans le Sanctus, etc. Donc je vous propose d'écouter un extrait de ce Requiem qui sera également joué lors de ce concert du 5 avril. Précisément, je vous fais écouter le Domine Jesu et l'Hostias ensuite, qui se trouvent dans la quatrième partie du Requiem, c'est-à-dire l'Offertoire, et dans lesquels je vous laisse identifier avec vos oreilles les moments où les fugues apparaissent. Je vous laisse reconnaître le sujet, la réponse, etc. Et je vous fais précisément écouter la version que vous entendrez ce samedi, car c'est la version du quatuor Debussy. C'est une transcription pour quatuor à cordes du hongrois Peter Lichtenstahl, compositeur dont on suppose qu'il était quand même proche de la famille de Mozart, déjà pour avoir accès à l'une des rares copies du Requiem et puis obtenir aussi l'autorisation de la transcrire. Et Lichtenstahl s'installe à Milan, où il retrouve là-bas le fils aîné de Mozart, Karl. Retrouve là-bas en 1810. Donc je vous laisse écouter le Domine Jesu, puis l'Hostias, et je vous laisse reconnaître les fugues.
Thank you.
C'était le Domine Jesu et le Hostias du Requiem de Mozart, et je pense que l'exemple était bien choisi pour reconnaître le sujet, la réponse, le contre-sujet. Il s'agissait de ce voilà le sujet qui a été repris ensuite par les trois autres voix pour devenir la réponse, etc. Alors je vous ai dit que c'était la version de Lichtenstahl, c'était pas faux, c'était bien vrai, mais Lichtenstahl n'étant pas lui-même violoniste, il a naturellement écrit pour chaque voix ce qui lui semblait le plus logique, sans toujours prendre en compte les questions relatives au timbre, à la sonorité et a fortiori à la technique purement instrumentale. Et le quatuor de Debussy a donc choisi de rééquilibrer ça et là les notes de l'harmonie entre le violon, l'alto, pour donner plus de clarté à l'accompagnement du chant et du premier violon. Donc le quatuor de Debussy a vraiment travaillé sur cette transcription et l'a affiné, l'a réfléchi, et ça a donné ce travail que vous venez d'entendre et que vous entendrez également le samedi prochain au Théâtre Jean Lebleu lors de leur concert. On fait un petit saut dans le temps et on se dirige dans le début, vers le début du romantisme en musique avec le compositeur allemand Beethoven, avec cette grande fugue, dit grosse fugue en si bémol majeur pour quatuor à cordes. Elle fut composée entre 1824 et 1825, et d'abord c'était considéré comme le dernier mouvement du quatuor opus 130, puis on l'a détaché de cette œuvre pour la publier séparément mai 1827 en tant qu'opus 133. C'est une œuvre vraiment visionnaire, monumentale dans ses dimensions et dans sa puissance expressive. Elle est considérée comme le couronnement de l'œuvre pour quatuor à cordes de Beethoven, et Beethoven connaît très bien les quatuors, il en a composé 16 en tout. Et on va écouter tout de suite le quatuor, la grande fugue, c'est-à-dire le quatuor à cordes de Beethoven, on va y arriver. Et elle est interprétée par le quatuor Albenberg, qui est un quatuor autrichien de renommée internationale. Ça dure 15 minutes, mais on peut se le permettre, on est sur Fréquence Mistral et on peut écouter une œuvre classique dans sa totalité. Alors l'enregistrement n'est pas de très très bonne qualité, mais je pense que vous pourrez tout de même apprécier la puissance de l'œuvre. On se retrouve dans un quart d'heure. Alors là, si vous n'avez pas les frissons, je ne comprends pas. Donc on vient d'entendre la grande fugue en si bémol majeur, pourquoi tu raccordes, opus 133 de Ludwig van Beethoven. Je répète que c'était l'interprétation du quatuor Alban Berg et vous pourrez comparer ce week-end avec l'interprétation du quatuor de Bussy. Ça permet, ça, à mon avis, ça promet. Je pense que vous avez pu bien entendre également ici les sujets, les réponses et vraiment on avait cette bonne impression de la discussion, la métaphore que nous avons utilisée tout à l'heure pour parler de la fugue. Je pense que dans cet extrait, on a bien entendu cette idée de conversation, de sujet, de réponse, etc. On va refaire un dernier saut dans le temps avec Fuga y Misterio. Vous connaissez certainement cet extrait de l'opéra d'Astor Piazzolla, l'opéra Maria de Buenos Aires, associé avec le poète Horacio Ferrer, qui a écrit les paroles de cet opéra. Un opéra composé en 1968. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'une prostituée qui meurt et qui revient à la vie. C'est une métaphore de l'histoire même du pays de l'Argentine. Et dans ce morceau, Astor Piazzolla utilise la forme fuguée, mais la réponse n'arrive pas à la quinte, mais à la quarte. Le sujet est en mi et la réponse arrive en la, quatre tons au-dessus. Puis la troisième voix interprète le sujet à la quarte de la réponse, c'est-à-dire en ré, soit quatre tons au-dessus de la. Et la quatrième voix est à la quarte de la troisième voix. Alors je vous ai peut-être perdu, mais c'est pas compliqué. Simplement, chaque voix successive sera 4 tons au-dessus de la voix précédente. On n'est plus dans la même contrainte exactement que la fugue que l'on a entendue dès le début avec l'art de la fugue de Bach. Mais finalement, le principe de cette conversation est le même. Le sujet est distribué dans les différentes voix. C'est simplement l'intervalle entre ces voix qui n'est pas exactement le même. Alors, je vous propose d'écouter Fuga et Mysterio, la version interprétée par Piazzolla lui-même. Il est derrière le bandoneon, vous le reconnaîtrez. On se retrouve tout de suite après Fuga et Mysterio. Fuga et Mysterio, interprété par Astor Piazzolla lui-même. C'était une très belle fugue aussi, donc vous avez pu entendre la fugue dès le début du morceau et vous entendrez le jour du concert du Quatuor Debussy, une transcription de Fuga et Mysterio pour Quatuor à cordes. C'est la fin de Da Capo déjà, il est 15h47, juste le temps de vous dire quelques infos pratiques pour ce week-end musical à venir à partir du 4 avril 2014. Il y aura encore de belles soirées en perspective pour ce week-end intense où les élèves des masterclass, c'est-à-dire les élèves du conservatoire de Manosque qui auront participé préalablement au masterclass avec les artistes invités, c'est-à-dire le Quatuor Debussy, l'orchestre régional PACA, etc. Eh bien, ils s'offriront le luxe d'une première partie d'artistes, c'est-à-dire qu'il y aura des préludes avant chaque concert dans lesquels les élèves pourront retranscrire le travail qui leur aura été transmis par les musiciens professionnels. Donc le vendredi 4 avril à 21h, il y aura un programme Mozart par l'Orchestre Régional de Cannes. Le samedi 5 avril à 21h, il y aura Fugue et Requiem de Mozart par le Quatuor de Bussy. J'espère vous avoir donné envie de vous rendre à cette représentation et puis vous avoir fourni quelques repères théoriques et des repères d'appréciation pour pouvoir mieux comprendre les œuvres et peut-être pouvoir les apprécier davantage. Enfin, le dimanche 6 avril à 17h, il y aura le Carmina Burana par le Chœur Régional PACA et les élèves de Jean Giono et du Conservatoire. Vous savez qu'il y a la possibilité d'acheter un pass pour les 3 soirées, 30 euros pour les 3 concerts pour le plein tarif. 25 euros pour, pareil, les 3 concerts pour les tarifs réduits, demandeurs d'emploi, etc. Et 15 euros pour les moins de 14 ans. Je vous invite donc à vous rendre ce week-end au Théâtre Jean Le Bleu. On se quitte comme on a commencé avec le Quatuor à cordes numéro 14. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt. We'll be right back.